C'était bien chez Bonnette, on y retournera.
Courbe.
C'est parti avec une courbe qui va pas plaire à Régis, mais qui fonctionne.
Comment va cette courbe ?
Moi, elle est pas mal, hein. Je peux parler fort sans popper.
Oh, joli, c'est un joli pop.
Est-ce que tu pop, baby, tu pop, baby ?
Pop, pop, pop.
Ni pédu.
Ni pédu. Ni pédu. Ni pédu.
Le podcast.
Le podcast.
École.
École.
Éducation. Numérique. Ni pédu.
Ni pédu.
Ni pédu.
Hey, joli coup de flûte. Bienvenue dans Ni pédu, saison 9, épisode 6. On est en février 2022, je crois, si je ne me trompe pas. Et on est toujours trois. De l'autre côté du micro, j'ai Jean-Phi et Fabien. Salut Jean-Phi.
Salut Régis. Tu as la forme ?
J'ai la super forme. Et Fabien, comment ça va ?
Mais je suis à fond, salut les gars.
La petite question, pour se lancer tout de suite, puisqu'on est un podcast qui parle, je crois, de numérique. Quel est ton actu numérique du moment, monsieur Aubard ?
Eh ben écoute, j'aurais aimé vous parler de comment j'ai nettoyé mes AirPods avec la pâte à fixe, comment j'ai été heureux de découvrir mon interface Notion en français, ou les nouvelles fonctionnalités de chez Google, mais alors là, je vais aller me faire taper dessus par les poditeurs, donc j'ai préféré vous parler des cahiers pédagogiques. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nos copains, qui propulsent un dossier des cahiers pédagogiques sur enseigner avec le numérique, donc on vous mettra les liens dans l'émission, nous on y sera peut-être les garçons, je sais pas.
Ah ouais, d'accord, ok. En tout cas on a hâte de le lire. Mais je crois que ça prend un peu de temps, hein. Je crois que ça prend une petite année entre le moment où c'est lancé et le moment où c'est publié. Et toi Jean-Phi, ton actu numérique du moment, est-ce qu'elle est vraiment numérique aussi ?
Elle l'est presque en fait, mais elle est un petit peu débotée. J'en avais prévu une, puis je l'ai changée parce que figurez-vous hier que j'ai eu un vieux reliquat de mon anniversaire que j'ai fêté très tardivement avec des copains qui m'ont offert un truc absolument inattendu et qui m'a fait extrêmement plaisir. Je sais pas si vous savez, mais c'est les 30 ans de Terminator 2. Et ils ont sorti un coffret absolument fou avec bien évidemment le film, énormément de bonus, la BO sur vinyle, plein de trucs. Et voilà, alors c'est pas tout à fait numérique, mais ça l'est quand même un peu. Et ça m'a surtout fait très plaisir. Et puis c'est une vraie actu. Donc voilà.
Merci Jean-Phi. Moi, ma petite actu numérique du moment, c'est un truc très très geek, hein. J'ai testé, j'ai un enfant gamer dans la maison, un vrai gamer, et du coup, j'ai découvert Stream Deck. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ce sont des petits boîtiers avec des raccourcis là pour gérer ses jeux en ligne, ses lives sur Twitch, etc. Mais j'ai découvert qu'on pouvait en faire une utilisation productivité, et j'ai surtout découvert qu'il existe une appli Stream Deck. Alors j'ai téléchargé ça sur un vieil iPad et en fait on peut y enregistrer plein de raccourcis clavier, ça c'est contextuel, c'est-à-dire selon l'appli qu'on utilise ça va déclencher les bons raccourcis une fois qu'on les a programmés. Donc je suis en train de tester, hein. Je suis pas plus loin que ça que le test, mais en tout cas c'est mon actu numérique du moment qui m'enthousiasme un peu. Je sais pas si je vais y rester longtemps, mais en tout cas intéressant quoi, ce Stream Deck version applicatif quoi. C'est l'heure de nous donner un petit peu le sommaire de l'émission. C'est bien beau ces actus numériques, mais de quoi on va parler plus sérieusement dans cette émission, Fabien ?
Ouais, clairement, tu m'as enlevé l'adverbe de la bouche, ça va être sérieux. Alors accrochez-vous à vos slips les garçons, parce qu'on va vous parler d'amélioration des pratiques en éducation ce mois-ci. Régis nous a vivement conseillé la lecture d'un bouquin qui a été publié par l'Université catholique de Louvain. Si je décrypte bien le sigle qu'il y a dans les notes de l'émission, je vois un hochement de tête de la part de mon copain Jean-Phi. Donc on va vous parler de ce bouquin à travers des trois rubriques habituelles: FAQ du poditeur, chronique Denis Pédu, FAQ de la rédac, où on vous parlera tour à tour de comment nos copains Iron essaient et tentent et réussissent bien souvent d'accompagner au mieux les collègues autour de l'appropriation du numérique éducatif. Jean-Phi va nous parler des rapports parfois compliqués et complexes entre la recherche et la classe. Et puis, côté FAQ de la rédac, on parlera du Graal du numérique éducatif. Avant ça, vous le savez, on aura une parole au poditeur. Et puis, on terminera avec une reco 4. Cataclysmique.
Eh bien, je vous propose qu'on file tout de suite vers la parole au poditeur.
La parole au poditeur.
Alors, je crois que c'est une vraie parole, en tout cas au poditeur, en tout cas une parole de vive voix, cette fois-ci, à laquelle tu as eu droit, Fabien.
Ouais, c'était rigolo parce que c'était un échange en direct, les garçons. J'ai eu la chance de déjeuner et de retrouver quelqu'un dont on a déjà parlé dans un IPDU, c'est Jean-Marc Sevin, qui travaille au Learning Planet Institute. C'est le nouveau nom du centre de recherche interdisciplinaire de François Taddeï. Et figurez-vous que Jean-Marc est un power fan de Nipédu et que, il nous a dit tout ce qu'il aimait, mais surtout tout ce qu'il n'aimait pas chez Nipédu. Donc j'ai trouvé ça génial d'avoir un retour utilisateur en direct, tout ça autour d'un repas thaïlandais qui était super bon. Donc en fait, je lance un appel. Hein. Jean-Marc est loin des réseaux sociaux. Moi, j'y suis aussi. Par contre, je suis toujours proche d'une bonne gamelle. Donc si vous êtes sur Paris et que vous avez envie de partager un repas, n'hésitez pas à prendre contact quand même via les réseaux sociaux. Et puis après, moi, je me ferai un plaisir de partager un repas avec vous. Je trouve que c'est super sympa. En tout cas, c'était un moment à la fois convivial et instructif. Je ne sais pas, les garçons, moi, je suis à Paris pour le signaler. Mais vous, peut-être que c'est aussi une initiative qui vous parle.
Oh bah complètement, moi, je ne sais pas toi, Jean-Phi, mais moi, je suis prêt à partager la gamelle. Comme disait Fabien, moi, je suis du côté de Nancy.
Et moi, je suis du côté du lac Léman.
Voilà, choisissez le plus glamour ou le plus proche de chez vous, mais ouais, avec grand plaisir. Pas plus vite que ça, on file vers la première rubrique, c'est la FAQ des poditeurs.
La FAQ du poditeur.
Être Iron, ça peut être fun.
Le roi des titres. Le roi des titres des rubriques, messieurs dames.
Bon, alors la FAQ du poditeur, est-ce que c'est à moi de la rappeler? Est-ce que l'un de vous deux veut bien rappeler ce que c'est que entre guillemets, le défi que représente la FAQ du poditeur pour Nipédu?
Allez, je m'y colle. Du coup, c'est juste que Nipédu est sur les réseaux, sur Twitter, avec une petite balise Ask Nipédu. On a même un petit répondeur à votre disposition dans les notes de l'émission. Et vous n'hésitez pas à nous contacter et à vous poser la petite question éducation, école ou numérique qui vous taraude et puis qu'on peut traiter dans une émission. Alors, c'est toujours l'un de nous trois qui prend un peu le lead et puis les deux autres qui discutent un petit peu des ressources que le confrère a trouvé pour qu'on discute autour du micro. Voilà, voilou.
Ouais, c'est exactement ça. Merci, Jean-Phi. Donc, on a une question de Quentin.
Salut, Nipédu. J'ai une question à 1000 euros pour vous. En tant que formateur numérique, je considère qu'une partie de ma mission, c'est de faire découvrir aux enseignants des outils et des usages du numérique qui les aident au quotidien et qui transforment leurs pratiques pédagogiques au moins un peu. D'un autre côté, en tant qu'enseignant, je mesure combien c'est compliqué de faire bouger mes propres pratiques sur d'autres sujets que le numérique. Vous dites que la FAQ du poditeur, c'est un défi ? Alors je vous mets au défi de me donner des pistes concrètes, moins tarte à la crème et théoriques que le développement professionnel enseignant pour faire bouger les pratiques. Au fait, ça m'éclate de vous écouter tous les mois. Merci à vous, continuez. C'est Quentin du Puy-de-Dôme.
Donc, défi relevé, Quentin. Comme le disait Fabien, on s'est penché tous les trois autour de ce fameux ouvrage « Améliorer les pratiques en éducation, qu'en dit la recherche ?» Et j'ai envie de dire que la question tape vraiment dans le mille pour le coup. Alors, il y a plein de questions dans ta question, là, pour le coup. Il y a la place et le rôle du formateur. Il y a la question de faire bouger les pratiques et de la complexité de la chose. On le lit en sous-texte. Tu parles de concret versus du théorique, et notamment le côté développement professionnel. Et il y a tout un volet numérique, puisque tu es formateur numérique. Alors, je ne sais pas si c'est Iron ou Fun. En tout cas, j'ai mis ça dans le titre. Donc, tu nous le diras peut-être par ailleurs. Quels premiers éléments donner? D'abord, quelques choix de traitement de la question. Il y a beaucoup de choses, donc, comme je le disais dans la question. Nous, en lisant en tout cas dans ce fameux bouquin et ta question, l'objectif en sous-texte, c'est pas tant de faire bouger les pratiques pour faire bouger les pratiques, hein, pour le plaisir de faire bouger les pratiques ou pour apporter de la nouveauté et du changement. On imagine bien en sous-texte, c'est d'aller vers l'efficacité de l'apprentissage des élèves. C'est un peu toujours le même but ultime quelque part. J'aime bien le dire comme ça parce que c'est vraiment l'ultime. Et il y a la question du côté du volet numérique. Alors, est-ce que le questionnement, il porte vraiment sur le volet purement numérique que sur la formation en général? On va dire que on va essayer d'y répondre, de donner des pistes de manière assez large. Alors, et juste le premier point, et je vous donne la parole, les garçons, hein, c'est que Quentin, il parle de tarte à la crème pour le côté des développements pro. Bon, on peut le renvoyer, mais s'il écoute Nipédu, il y a pas mal d'épisodes déjà sur cette thématique du développement professionnel. On vous mettra ça dans les notes de l'émission, donc on va pas traiter ça complètement dans cet épisode-ci, en tout cas. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des premiers, des premiers éléments autour de cette question de Quentin, et puis on rebondit les uns les autres comme d'habitude, quoi, les gars.
Avant d'aller directement sur les pistes concrètes, il y avait des éléments de contextualisation ou en tout cas de cadrage. Je me demande, tu parlais de l'efficacité des apprentissages des élèves. Quentin parlait de faire bouger ou de transformer les pratiques. Dans le bouquin de l'université de Louvain, on parle d'améliorer les pratiques. Je ne sais pas si l'amélioration des pratiques passe par la transformation des pratiques ou par une optimisation des pratiques existantes. Et là, puisque Quentin et Tyrone, je parle notamment de... Enfin, tu vois, je pense notamment à l'appropriation de ces outils numériques. Et est-ce qu'il faut transformer tes pratiques ou il faut rendre les pratiques déjà en place plus ergonomiques? Alors, je ne sais pas si ça, c'est du jargon ou pas, quoi, mais plus confortable.
Ouais, moi, je veux bien rebondir là-dessus parce qu'il faut dire qu'on a bien décortiqué ce fameux bouquin. Il y a des points, notamment sur ce dont tu parles, Fabien. Il y a deux chercheurs, mais Jean-Phil nous en dira peut-être plus aussi tout à l'heure. Brick et Snow, qui ont un peu inversé la tendance sur les recherches en éducation. En tout cas, ils parlent d'un espèce de nouveau paradigme et de partir des pratiques des enseignants. Mais sur ce que tu dis précisément, Fabien, c'est vrai qu'ils disent que un des vrais axes d'amélioration des pratiques, c'est de partir d'amélioration de ce qui se fait déjà et pas vouloir forcément faire du nouveau, de l'innovation ou comment dire, bouleverser les pratiques. En tout cas, une des pistes qui permettent vraiment mieux améliorer ces pratiques, c'est de partir de ce qui existe déjà et de manière itérative, comme ça, à bas bruit, à petite échelle, de commencer à améliorer ces éléments-là. Donc effectivement, ça résonne bien, quoi.
Ouais, et puis alors après, bon, c'est des choses sur lesquelles j'ai plus de connaissances un peu naïves qui vont m'emmener vers des choses sur lesquelles c'est des connaissances moins naïves, mais de toute façon, je crois qu'en psychosocial, il y a quand même la résistance au changement, de quoi qu'on parle, hein, qu'on parle de pratiques professionnelles ou autres, est quand même largement documentée. Et je pense que justement, si on vise des changements de pratiques, l'idée c'est quand même toujours d'essayer de partir de ce que font déjà les gens et puis essayer de les emmener plus loin et non pas de leur demander. Enfin. De proposer la possibilité de changer radicalement de pratique du jour au lendemain. Ça, c'est des choses, notamment, je sais qu'en conseil pédagogique, ça faisait partie des trucs qu'on évitait, quoi. Dire qu'il fallait vraiment, justement, plutôt aller dans le pas à pas et puis voir quelles étaient déjà les sensibilités des enseignants et puis de partir justement de là où ils étaient. Après, moi, je sais que des formations professionnelles obligent, c'est-à-dire étant donné les thématiques sur lesquelles je travaille en termes de recherche, moi, je sais que par rapport à la question de Quentin sur le développement professionnel, moi, il y a un truc dans lequel je crois beaucoup, c'est la communauté de pratique. C'est-à-dire que je crois beaucoup que dans les pratiques enseignantes, il y a des choses qui résistent beaucoup à la verbalisation, enfin, qui sont dures à mettre en mots, dans le sens où on va pas tous accorder les mêmes sens aux mêmes mots, et quand on va dire « Ah bah tiens, faut peut-être essayer de faire ci, faut peut-être essayer de faire comme ça, etc. », il y a plein de choses qui vont être difficilement compréhensibles et traduisibles immédiatement par un autre collègue. Et que le meilleur moyen d'essayer de réussir à comprendre ce que sont ces implicites, essayer de capter des choses qui résistent à la mise en mots, c'est avoir une équipe avec laquelle on se voit régulièrement, avec laquelle on s'observe régulièrement, avec laquelle on débriefe régulièrement. Et quelles que soient les pratiques dont il est question, qu'on parle de pratiques numériques ou autres, mais à mon sens, dès lors qu'on parle de pratiques d'enseignement, qui est, voilà, comme je dis, une pratique qui n'est pas toujours facile à décrire. Je crois que l'observation et le débriefing répété, itératif, est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux.
T'as dit plein de choses dans cette intervention. Juste, si vous me permettez, les garçons, en espérant que ça ne nuit pas aux échanges, je voudrais reprendre deux définitions qui sont données sur le développement professionnel. Parce que Quentin parle de tarte à la crème, et c'est vrai, Régis t'a mis plein de références sur Denipedu, on a beaucoup parlé développement professionnel, on vous remettra ces références dans les notes de l'émission. Mais on a dans le bouquin, alors j'ai plus le nom des auteurs et du chapitre 6, c'est Galland et Delis qui donnent deux définitions du développement professionnel, même s'ils indiquent que la recherche ne fait pas consensus là-dessus. Ils disent que, alors deux définitions, la première c'est l'engagement des enseignants dans un processus d'apprentissage ou de réflexion sur leur pratique. Donc, il n'y a pas de transformation des pratiques. Hein. Là-dedans, il me semble, sous votre couvert, on a juste une observation réflexive de ces pratiques-là. Et dans la deuxième définition, toute forme d'apprentissage professionnel qui sert à l'enseignant pour modifier les situations dans lesquelles il évolue dans son travail quotidien. Là encore, moi, je lis pas complètement une volonté de transformer des pratiques. Et c'est une façon de rejoindre la première partie de ton intervention, Jean-Phi.
Alors moi, je serais pas tout à fait d'accord, hein, parce que dès lors que déjà dans la deuxième définition, t'as le mot apprentissage, si t'apprends quelque chose, c'est que tu modifies ton état de connaissance et que, in fine, alors quand on parle de pratique, ça va forcément avoir un effet sur les pratiques. Alors après, pratique ne veut pas forcément dire une action au sens observable du terme, mais ça veut, enfin tu vois, dès lors qu'il y a une, pour moi, dès lors qu'il y a un apprentissage, il y a quand même une modification de la manière dont tu perçois la situation et donc de la manière dont certainement tu vas la gérer.
Ouais, moi si je reviens au, on prend de la hauteur avec le côté développement pro, et t'as raison, hein, vous avez raison, c'est important quand même de préciser ce que ça peut être ou pas. Et quand Quentin dit « Ah, donnez-moi des éléments, des pistes concrètes en tant que formateur pour les enseignants que je peux suivre », il y a quelques éléments quand même ultra concrets, je trouve, qui sont donnés ça et là dans le bouquin et qui résonnent avec ce que tu dis là, Fabien, et Jean-Phi aussi d'ailleurs. Bah, ils disent de proposer des formations qui emmènent à réfléchir notamment à l'intégration d'un outil dans une pratique habituelle, hein, si on parle là d'outils numériques, mais pas forcément, en même temps, j'ai envie de dire, on parle juste d'outils. Donc ça rejoint aussi cet élément de on se développe en réfléchissant à quelque chose, pas juste en tentant de le faire, voilà, en ayant un espèce de regard réflexif sur sa pratique. Il y a aussi l'élément de... Enfin, le fait de devoir s'intéresser aux attentes, aux motivations des enseignants, et évidemment pas vouloir plaquer... quelque chose, on reviendra peut-être, hein, sur tout le, comment dire, toute la grande thèse, en tout cas la thèse générale du bouquin, qui consiste quelque part à dire que bah, ni les grandes réformes, ni les preuves scientifiques, ni le développement professionnel en tant que tel, ces trois grands éléments qui sont changés, qui sont censés impulser des changements en éducation ne fonctionnent vraiment, et on en revient pour le coup vraiment au niveau du terrain, au niveau de l'enseignant, avec ces éléments que je donnais là, sur s'attacher à leurs attentes, à leurs motivations, qui peuvent être du coup super localisées. Et il y a un élément qui a l'air de marcher fort, en tout cas qui est documenté en tant que tel, c'est le coaching individuel. Ils le disent vraiment comme ça, quoi. Donc là, on parle même plus. Alors, je saurais pas dire, peut-être Jean-Phi saura dire la nuance qu'on peut mettre à coaching individuel ou à formation individuelle. Mais visiblement, le côté individuel, ça augmente vachement la mise en œuvre effective de nouvelles pratiques. Donc ça c'est quelques petites pierres à la manière du petit poussé d'éléments concrets pour Quentin, quoi. Enfin, je pense.
Et je voulais boucler le deuxième point de ta première intervention. Je fais des digressions de ouf. Il ne faut pas me mettre sur des enregistrements le matin, les garçons, parce que je pète le feu, quoi. Tout à l'heure, tu parlais des enjeux de l'apprentissage coopératif. Jean-Phi, dans le bouquin, on a un article qui est dédié de Buch et Hall. Le titre, c'est « Apprentissage coopératif, décalage entre enjeux pragmatiques et idéologiques ». Donc, on va pas le déplier ici, mais intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Et il y a notamment une partie qui est dédiée aux freins. Et sur les freins, sur l'apprentissage coopératif, il y a des choses autour des valeurs des enseignants et des choses autour de l'investissement qui représente un frein non négligeable. Juste pour terminer avec ce point-là et pour repartir dans les éléments pratiques. Et moi, sur les éléments pratiques à apporter à Quentin, je me suis dit que observer l'enseignant pour comprendre ses pratiques et savoir quels étaient les leviers d'amélioration, c'était intéressant, enfin c'était fondamental. Il y avait aussi toutes ces questions environnementales avec la caractéristique des écoles et avec ce qu'ils appellent dans le bouquin l'environnement politique. On sait qu'en ce moment, les DHG sont en train de se décider. Donc ça, c'est des éléments importants. Est-ce qu'on dispose matériellement des moyens de pouvoir être dans un contexte serein et accepté et acceptable de développement des pratiques. Et sur les caractéristiques des écoles, je trouve que c'est aussi important pour toi, Quentin, quand tu arrives dans une école, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est les auteurs du bouquin dont on vous parle, de bien identifier quel est le climat de travail dans l'école, quelle est la capacité des équipes pédagogiques dans laquelle s'inscrit le travail du collègue que tu vas accompagner, à accepter des changements des routines, est-ce qu'il y a des logiques de travail collaboratif collaboratifs, comme le disait tout à l'heure Jean-Phi, qui sont installés, et puis voir un petit peu quelle est la posture du directeur, parce que tout ça, si on en croit les résultats de recherche qui sont concaténés dans le bouquin dont on vous parle, ça influe énormément sur la façon dont le collègue va pouvoir être plus ou moins poreux à accepter ce que tu vas lui proposer. Jean-Phi ?
Ouais, je voulais juste dire que pour moi, c'est crucial. Ben, merci cette intervention. Je pense que c'est vraiment le point sur lequel, quand on réfléchit, en effet, et puis quand on lit ce livre et qu'on voit les difficultés, parce que finalement, c'est ça que, comme constat ou comme question que pose ce livre, c'est-à-dire, quand on a un résultat local, comment on fait pour essayer de le généraliser? Et en fait, quels sont les freins? Les freins, c'est justement ne pas assez prendre en compte tout ce que tu viens de dire, Fabien. Et je pense que c'est vraiment un point crucial dans ce dont, enfin, ce qu'il faut essayer de retenir quand on essaye d'accompagner des enseignants, que ce soit individuellement ou en groupe.
Moi, je tire ce fil encore un tout petit peu plus. Je vais carrément donner une citation du bouquin qui tire ce fil, justement. C'est que les choses se jouent effectivement à l'échelle d'un établissement ou d'une circonscription d'une manière, moi, qui m'a un petit peu étonné. Alors, je cite, du coup, là, j'ouvre les guillemets. « Le potentiel d'amélioration se situe dans la réduction du différentiel d'efficacité entre enseignants d'une même école ou d'une même structure plutôt qu'entre écoles. » Je trouve que de donner cette clé-là, c'est effectivement hyper intéressant. Hein. Parfois, on pourrait se dire, à tort pour le coup, que ça pourrait paraître contre-intuitif que de cet effet de « on met à peu près tout le monde à un même niveau moyen », eh bien ça, c'est plus facteur d'amélioration des pratiques que de se dire « on tire ceux qui ont le plus de difficultés un peu plus vers le haut et on laisse les autres un peu se débrouiller », ou l'inverse. Ce côté, on pourrait se dire bah, « tiens, un nivellement de formation, ouais, ça ne doit pas avoir un effet si vaste que ça. » Et pourtant, si, visiblement, c'est ça, quoi. Nivellement sans côté péjoratif, quoi. Et je trouve que là, en tant que formateur sur le terrain, là, moi, ça me donnerait des billes au quotidien de me dire « Ok, je vais essayer plutôt d'agir sur ce niveau moyen de chacun, identifier qui aurait besoin d'acquérir ce niveau, plutôt que de voir les choses quelque part à l'envers, pour le coup. »
Bah ouais, carrément, Régis. Et puis, on retrouve dans ce bouquin plein d'autres. Tu parlais d'un fil à tirer, il y en a plein d'autres, avec notamment des solutions plus ou moins concrètes comme ça pour toi, Quentin. Donc, pour le moment, l'observation du collègue, de l'environnement. Et puis après, d'autres pistes dans améliorer les pratiques en éducation.
Eh bien, allez, on file vers la chronique de Nipédu.
La chronique de Nipédu.
Le soleil ne rencontrera pas encore la lune. Améliorer les pratiques en éducation, qu'en dit la recherche? Lorsque l'on finit la lecture de l'opus du même titre, on ne peut que conclure qu'elle en dit beaucoup de choses. Si l'on se fie à la quantité et diversité de travaux cités dans cet ouvrage, et qu'on les met en regard avec le constat, aussi sincère que déroutant qui lui sert de fil rouge, peut-être pourrions-nous même être tentés de dire qu'elle en dit trop. En effet, malgré tous les efforts scientifiques sur lesquels ils se fondent, le livre atteste que nous peinons encore très largement à faire que les connaissances de la recherche en éducation modifient durablement la pratique des enseignants pour qu'à son tour, cette pratique impacte favorablement les apprentissages des élèves. Difficile à ce stade de ne pas asséner un laconique « tout ça pour ça ». Si la FAQ menée par Régis nous a déjà permis d'aborder les apports du livre quant au développement professionnel des enseignants, ici nous suivons les auteurs vers un autre thème cher à Nipédu, celui de la relation, pourrait-on dire, contrariée entre chercheurs et praticiens. Elle a encore récemment été traitée dans la chronique du numéro 571 d'octobre 2021 des Cahiers Péda. Elle est abordée dès le premier chapitre, écrit par Pascal Bressoux, dans lequel elle est souhaitée horizontale cette relation. Jusqu'au dernier chapitre, coécrit par Michel Janos et Frédéric Nobrière, où est étayée la difficulté de son horizontalité effective de par les lacunes de la formation des enseignants en termes de recherche. Au milieu, d'autres avis avec des nuances parfois implicitement désignées par des dénominations so chic. Design-based research, evidence-based research, practice-based evidence, autant de variations autour de qui, d'entre la preuve ou la pratique, entendre donc d'entre le chercheur ou l'enseignant, doit se baser sur le travail de l'autre. Retenons aussi que derrière ces dénominations se cachent des présupposés bien différents quant aux méthodes de recherche utilisées, quant au type de preuves auxquelles on peut prétendre et à la valeur de ces preuves pour la pratique. Ainsi, c'est une large majorité des paradigmes qui existent en recherche en éducation qui sont représentés dans ce livre et qui partagent donc, dans leur large majorité, un constat d'échec. Bien sûr, le livre se veut force de proposition et d'analyse pour aller de l'avant. Citons alors les directeurs de l'ouvrage. Début de citation. Pour les auteurs, autant la formation des futurs chercheurs que les règles entourant la promotion en carrière ou le financement de la recherche devraient être revisitées pour promouvoir sérieusement et à long terme l'implication des universitaires dans des activités de recherche qui font une large place à la collaboration avec les acteurs de terrain. Les règles et logiques qui prévalent dans un champ d'activité ne sont pas toujours compatibles avec celles de l'autre champ. Et sans une remise en question authentique de ces dernières et des infrastructures qui les maintiennent, les auteurs questionnent notre réelle capacité collective à générer des connaissances permettant d'améliorer les pratiques éducatives. Fin de citation. Si ce constat d'incompatibilité s'ancre très pertinemment sur le fonctionnement structurel des deux champs d'activité, je reste quelque peu sur ma faim, ici et dans l'ensemble du livre, quant à une incompatibilité de fond qui me paraît largement passée sous silence. Le chercheur, par essence, effectue un travail d'analyse. Il trouve un sillon, les émotions, les inégalités sociales, les interactions en classe, les objets d'apprentissage, le numérique ou que sais-je encore, qu'il creuse toujours plus finement. L'enseignant, tout autant par essence, effectue un travail de synthèse. On repense au multi-agenda de Dominique Bucheton, fréquemment évoqué chez Nipédu, qui modélise les nombreuses dimensions que l'enseignant gère en situation. Le caractère découpé, discret, dirait-on, des différentes entités traitées en recherche y deviennent un tout continu. Et tout le défi de la rencontre entre chercheurs et enseignants réside, me semble-t-il, dans la manière dont l'impact très localisé du chercheur sur la pratique de l'enseignant ne peut pas, à moyen ou long terme, finir simplement noyé par tous les autres aspects de sa pratique. Alors, faciliter structurellement les collaborations peut en effet être un point de départ pour relever tous les défis quant à la manière dont faire peser la recherche sur les pratiques. Mais encore faut-il reconnaître ces défis, et je ressors de ce livre avec la déception qu'il soit passé à côté de celui qui me paraît le plus grand, et que même 2 millénaires de philosophie n'ont pas résolu. Comment faire se rencontrer l'analyse et la synthèse?
Jolie, jolie fermeture de chronique, Jean-Phi. Alors, effectivement, il y a un constat d'échec sur plusieurs éléments, mais pas complètement. Et d'ailleurs, je crois que la rubrique suivante va nous le prouver. On file pour le coup vers la FAQ de la rédac.
La FAQ de la rédac.
Flexion, extension. En fait, en lisant le bouquin, il y a un chapitre qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui de Guagou, concernant l'aventure Naramus. Alors pour faire simple, il rappelle comment cette méthode d'apprentissage de l'écriture a été co-conçu entre des chercheurs et des praticiens et des enseignants, pour ne pas jargonner. Et il décrit un petit peu ce qui va faire que ce processus de co-conception, qu'il appelle conception continuée, fonctionne. Et je le crois sur parole, hein, je vais le croire sur parole. On va voir ce qu'en pensent Régis et Jean-Phi. Je sens venir le low kick un peu de Jean-Phi derrière, mais moi je le prends comme argent comptant.
Moi je comprends pas, je fais pas de low kick moi jamais.
Et je me suis posé la question, et je vous la pose à vous les garçons, parce que c'est plus facile de déléguer la réflexion que de réfléchir soi-même. Je me demandais s'il existait un objet pédagogique et numérique, parce que je me suis dit qu'on était quand même chez Nipédu et que si on parlait pas numérique, Régis allait nous taper sur les doigts. Un objet pédagogique et numérique qui soit utile, utilisable et acceptable par les collègues, qui soit capable, un peu à la manière de Naramus, de diffuser auprès des enseignants des connaissances didactiques robustes, tout en les faisant percoler parce que la méthode, elle est facile à prendre en main et elle véhicule des bonnes pratiques pédagogiques au sens où peuvent l'entendre différents domaines de la recherche en sciences de l'éducation, la psychologie, la didactique de la discipline en question, la didactique de l'activité. Tu parlais tout à l'heure de Bucheton, Jean-Phi, etc., etc. Donc en gros, je me suis amusé à lister des propositions numériques ou en tout cas des propositions basées sur le numérique ou des artefacts numérique. Alors, artefact, ça veut dire objet, hein, des objets numériques. Ça va, monsieur Jargon Master, c'était bon, objet. Du genre, je sais pas, la classe inversée dans la manière où la portée inversons la classe. J'ai pensé aussi à la méthode heuristique de mathématiques de notre ami Nicolas Pinel, dont je voulais parler dans la première rubrique, puis j'ai pas eu le temps, donc peut-être qu'on en parlera là. Je pense à tout ce qui s'est passé, Régis, dans un projet que tu connais bien, qui est le projet IFRAN et ses 22 lauréats, ou alors plus récemment dans ce qui se passe du côté des 6 lauréats du partenariat d'innovation intelligence artificielle, autrement connu comme P2IA. Et là, on retrouve des choses comme l'Alilo, dont on a déjà parlé ici. Donc, est-ce qu'il y a un objet numérique comme ça, paf, qui rentre, facile à prendre en main et qui va sui generis, qui va porter en lui des bonnes pratiques pédagogiques et le développement de connaissances didactiques pour le prof, j'ai envie de dire, ni vu ni connu en fait.
Je vois un doigt qui se pointe vers moi. Moi, la réponse en trois lettres, c'est non. Si je devais clore le débat, non. Alors effectivement, dans tout ce que tu décris, Fabien, les conditions et notamment le fait que cet objet, cet artefact véhicule de bonnes pratiques pédagogiques. Alors, pour le coup, ça veut dire que c'est un objet vraiment complexe. Hein. Quand on dit objet, là, tu disais artefact. Et vu les exemples que tu donnes, qui sont super variés, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'association d'objets numériques, d'objets papier, mais accompagnés de formateurs ou de formations. Donc, c'est quelque chose de... Comment dire, un espèce d'objet, ouais, vraiment, j'ai pas d'autre mot pour le coup que complexe. Donc, qui dit complexe dit il véhicule pas de lui-même ses bonnes pratiques, en tout cas. Et l'exemple du Naramus que tu donnes, pour le coup, c'est typiquement ça, quoi. C'est une espèce de pratique associée à des objets qui est tellement complexe qu'effectivement, il faut tirer les bons fils pour se dire voilà comment que ça marche, voilà sur qui ça peut fonctionner et voilà comment on peut le diffuser à grande échelle.
Et pour ma part, j'avoue aller un peu dans le sens de Régis. Alors, c'est moi qui ai pointé un doigt vers Régis après la question de Fabien, parce que vu que numérique, j'avoue que c'est quand même plutôt vous qui êtes plus calé. Et en plus, moi, j'avoue, j'abonderai d'autant plus dans le sens de Régis en élargissant la question, non pas que sur la question du numérique, mais parce que justement, j'ai l'impression que ce chapitre fait un peu l'hypothèse que le plus dur, c'est le développement de l'outil. Et que ce développement-là, il est vraiment à faire avec une petite communauté de pratiques, justement, comme on pouvait le dire tout à l'heure, en tout cas avec des partenaires locaux, enfin une équipe qu'on constitue, puis on fait des allers-retours, et puis on affine, etc. Et qu'une fois que ce travail-là est fait, et s'il est bien fait, c'est facile d'élargir l'empan. Où l'outil pourrait être utile, que c'est facile d'aller le donner dans une autre école, dans un autre département, dans une autre académie. Alors que, comme on le disait un peu plus tôt lors de la FAQ du Poditeur, quand on répondait à Quentin, quelque part, un des enjeux, c'est justement le climat, le contexte, etc. Et pour moi, le point le plus difficile, en fait, quand on essaye de développer un outil et de faire en sorte qu'il puisse être utilisé par le plus grand nombre, c'est pas son développement avec un petit groupe de personnes, c'est vraiment le changement d'échelle, quoi, et le fait qu'il puisse être diffusé et utilisé par tous, parce qu'il va se confronter à énormément de paramètres auxquels il n'aura pas été confronté lors de son développement. Et je pense que c'est pour ça que j'aurais tendance à vouloir dire, moi aussi, non, et en plus, pas que dans le numérique, quoi.
Pourtant, sur ce dernier point, c'est pas qu'il se défend, Guagou, c'est qu'il explique qu'il y a toute une phase d'évaluation de l'outil qui est fait avec ce qu'il appelle une population d'enseignants et des contextes sociodémographiques suffisamment variés. Il appelle ça la diversité de bonne aloi. Il me semble. Et puis, y a des principes de validité écologique qui sont mis en avant sur le fait que, OK, le truc est co-conçu, il est testé, mais il n'est pas testé. Alors, c'est la fameuse différence, pour donner quelques termes qui sont amenés dans le bouquin, entre efficacité et effectivité. On n'a pas juste la preuve d'une efficacité dans un contexte de laboratoire, on va dire, même si c'est le laboratoire à l'échelle de, je te dis n'importe quoi, 3 écoles, mais qu'on a fait le passage vers l'effectivité, c'est-à-dire que ça marche en dehors des situations d'expérimentation en labo, et que visiblement derrière, ils ont même géré, alors je ne sais pas, quid, enfin parce que un éditeur, parce que des choses comme ça, ils ont même géré le déploiement à une plus large échelle. Donc c'est pour ça que je te dis, ok, moi je suis là, j'ai pas sorti le bazooka esprit critique. J'ai pris, alors je sais que Guagou en ce moment il fait, enfin voilà, il fait beaucoup parler de lui aussi. Je pense que tu as mis dans les notes de l'émission, Jean-Fix, que c'était un vendeur de méthodes pédagogiques. C'est bon de le dire à nos auditeurs, mais je vais peut-être te laisser le dire, tu le diras bien mieux que moi.
Bon, après, oui, j'avais noté ça dans les notes de l'émission, parce que c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est clairement quelqu'un qui aujourd'hui vend des manuels. Bon, après, voilà, hein, tout le monde, enfin, il y a plein de gens bien qui vendent des choses. C'est pas non plus... Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que... En ce qui concerne l'éducation, enfin, puis encore plus les méthodes d'enseignement sur un objet donné, j'avoue que un résultat de changement des, enfin, tu vois, tel que les résultats que tu décris, qui sont effectivement décrits dans le chapitre, pour moi, dans une certaine mesure, sont pas suffisants là encore, parce que il y a des effets où quand le manuel il est pas encore vendu, mais qu'on essaye de le faire utiliser par d'autres personnes, bah ces personnes se mettent dans un état d'esprit où elles sont volontaires, où elles sont, tu vois, il y a une vraie, ce qui sera pas la même chose quand c'est reçu par un prof qui dit, putain, pardon, excusez-moi, j'aurais pas dû dire le mot, on peut couper. C'est pas tout à fait la même chose quand t'as un prof qui dit, c'est mon 5e changement de manuel depuis le début de ma carrière, et puis je suis pas sûr que celui-ci... Enfin, tu vois, je pense que on est quand même... Il faut jamais oublier, pour moi, que même à grand renfort de modèles statistiques qui nous aident à nous prévaloir d'un certain nombre de biais, pourquoi pas, mais qu'on est toujours sur de l'humain, sur des phénomènes humains, où ce genre de méthode, surtout quand on en vient à parler de... Donc ce genre de méthode de validation de l'outil, et quand on en vient à parler du fait que cet outil puisse être utilisé par, devenir l'outil qui est soutenu par le programme du ministère de l'Éducation nationale, il y a toujours des paramètres qui rentreront en ligne de compte dans son utilisation, dans son application, qui feront que ce sera... À mon sens, j'insiste, jamais une panacée, jamais.
Moi, ça me fait penser et c'est aussi l'objet là dans ce chapitre et d'autres, de la notion d'implantation, où ils explicitent le fait, et si on reste sur cet exemple de Naramus, par exemple, ou de n'importe quel autre objet ou méthode, disons, alors c'est sûr que sur le papier, tout fonctionne, enfin sur le papier, voilà, ça a été testé, ça fonctionne, il y a une validité externe pure, tous les éléments pour la meilleure mise en œuvre possible, avec les meilleurs effets possibles, sont dans la méthode, n'empêche que dans la mise en œuvre de la méthode, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui concerne un peu l'implantation, on la met chacun de manière plus ou moins quantitative et qualitative en place, et pour le coup, ben, ça fractionne d'autant plus son efficacité. Dans un monde idéal, une méthode même, on va dire, scientifiquement approuvée, qui a l'air de parfaitement fonctionner, ben, n'empêche que dans sa mise en œuvre au quotidien, on n'est jamais au plus près de l'effectivité, sauf pour le coup à être vraiment accompagné au quotidien pour aller chiner les éléments d'amélioration ou les éléments sur lesquels on peut taper à côté. Et là, pour le coup, on sort, pour moi, enfin, on est de nouveau dans cette espèce d'objet ultra complexe qui forcément ne peut pas être fonctionnel en lui-même.
Puis voilà, je vais me permettre du coup d'aller complètement dans ce sens-là et puis de le reformuler d'une manière un peu parente à ce que j'ai pu dire dans la chronique précédente. C'est-à-dire qu'en fait, je doute pas du fait qu'il y ait une validité de l'outil par rapport à potentiellement la meilleure présentation possible ou la meilleure méthode possible par rapport à l'enseignement de ce contenu donné, mais l'enseignement n'est jamais que la transmission d'un contenu. C'est aussi une gestion d'élèves avec leurs affects, leurs sentiments, c'est la gestion des profs. Enfin, tu vois, il y a tout plein de paramètres qui font que tant bien même on a entre les mains une méthode qui serait potentiellement la plus efficace, je pense qu'il y a plein de leviers, il y a plein de freins, au contraire d'ailleurs, qui font que ce ne sera pas la solution ultime. Et voilà.
Tout à l'heure, on a parlé, suite à la question de Quentin, des facteurs extérieurs ou en tout cas environnementaux que sont l'école ou les politiques éducatives, quelle que soit l'échelle de ces politiques. Là, Régis a parlé de l'implantation. Juste pour revenir et pour donner des éléments de langage autour de ce concept, Régis, donc l'implantation, ce qu'on appelle implantation dans le bouquin, en tout cas, sont les mécanismes d'adoption de ces méthodes, on va dire, par les profs. Donc tu parlais de quantitative et qualitative. qualitative. Donc quantitative, ça veut dire à quel rythme ils vont avoir recours à la méthode, et qualitatif, c'est quel degré de détournement, ou en tout cas d'appropriation, dans le sens où l'entendaient les concepteurs, il va y avoir par rapport à la méthode. Et là, on recentre, et on va boucler avec les questions de Quentin et avec ce que disait Jean-Phi sur le côté humain, et du coup très difficilement maîtrisable, c'est toutes les caractéristiques qui concernent les enseignants qu'on n'a pas abordées. Et dans le concept d'implantation, il y a trois dimensions, hein. C'est est-ce que l'enseignant sait faire, est-ce que l'enseignant peut faire. Donc là, ça renvoie plutôt au contexte environnemental, le milieu dans lequel il évolue, et est-ce que les enseignants veulent faire. Mais j'ai l'impression que là, on fait un pas de côté par rapport à, en termes de conception et d'évaluation de la méthode, de la manière dont on va pouvoir mettre toutes les chances de notre côté avec cette méthode pour qu'elle soit un maximum effective et appropriable par les collègues. Et du coup, j'ai envie de vous renvoyer à la première question pour les 2-3 minutes qui nous resteraient. C'est, est-ce que vous, à date, vous voyez, alors non pas cette solution pédagogique numérique miracle qui puisse faire que les enseignants développent leur pratique, mais qui s'en approche, ou en tout cas où vous vous dites, il y a des choses à creuser, moi je trouve que c'est bien pensé, au moins sur un des aspects de la méthode. Et je pose plutôt la question à toi, Régis, parce que tu es plus connaisseur de cet environnement-là.
Alors, c'est, là, posé comme ça, tu vois, je vais donner un exemple très, très terre à terre, et qui ne répond pas complètement à la question, et en même temps, si, ça m'évoque ça. C'est-à-dire que on parlait d'artefacts, on parlait d'outils et plus de méthodes. Je prends l'exemple du TBI, tu vois. Ce serait le niveau, ce serait l'exemple à, quelque part à niveau minimal et pas tant que ça. C'est-à-dire que quand tu mets un TBI en classe, il y a ce côté, comment dire, affordance, enfin, ce que le TBI en lui-même apporte et qui a l'air d'être minime et en même temps qu'il n'est pas tant que ça. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est bon, bah, quand je l'utilise au quotidien, bah, je peux enregistrer, je peux faire une capture écran de mon TBI que je peux, par exemple, ben, envoyer tiens, aux élèves absents, que je peux partager à distance, que je peux réafficher le lendemain, tu vois. Ça, c'est presque induit par l'outil, et du coup, c'est des... Alors, on est dans le minima, hein, de changement de pratique, n'empêche que, et là, avec le double sens du mot pratique, ben, il y a le côté ultra pratique au quotidien, mais je trouve que l'exemple est à la fois parlant, parce que j'ai l'impression qu'il est très concret, mais on voit à quel faible niveau il se joue, quoi. Hein. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce genre d'exemple est à la fois ultra concret et en même temps rend super humble sur le degré de transformation, quelque part.
Ouais, mais ce sont des transformations assez fondamentales, et c'est rigolo que tu parles de TBI, parce que je suis en train de travailler avec une collègue qui s'appelle Cécile Lalanne et que je salue. Donc je spoil un petit peu un article qui sera publié sur le site Être Prof, où elle explique comment Activi Inspire, donc sur les tableaux Prométhéan, donc on est plutôt sur du TNT, TBI, VPI, lui a permis d'intégrer facilement la démarche d'investigation, t'as vu, je l'ai dit en français, Jean-Phi, la démarche d'investigation dans ses cours de techno. Et c'est le TBI qui a été ce vecteur de transformation avec un fort niveau de, je sais pas, on pourrait dire affordance pédagogique, mais là j'entends Jean-Marc qui dit c'est encore un mot trop compliqué, quoi. Voilà, ça rend facile l'appropriation de cette démarche, c'est l'outil qui le permet avec une transformation à bas bruit, j'ai envie de dire, pour paraphraser quelqu'un qu'on aime bien.
Mais pour elle.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y aurait d'autres gens qui n'auraient peut-être pas sa sensibilité à ce type de matériel ou à ce type d'outil ou à cette approche pédagogique qu'est la démarche d'investigation, et qui ferait que cette porte d'entrée qu'elle a trouvée ne fonctionnerait pas du tout pour quelqu'un d'autre ou dans un autre contexte.
Ouais, et en même temps, tu vois, et ça rejoint ma FAQ du poditeur, et en même temps, c'est une bonne clé d'entrée pour commencer. C'est-à-dire qu'on a tendance, enfin moi j'ai l'impression, hein, quand on veut installer un TBI ou un outil comme ça, je vais rester sur cet exemple, hein, dans un établissement, on a tendance à vouloir montrer, regarde, c'est interactif, tu peux créer des exercices avec des trucs qui coulissent et machin, et finalement très peu s'en servent de cette manière-là parce que ça prend du temps et que c'est compliqué à faire. Tandis que si tu donnes cette petite entrée de juste dire, ça te permet de projeter ton document Word et de le sauvegarder et de l'utiliser en lendemain, j'ai l'impression qu'il y a ce tout petit bras de levier là qui donne une piste et qui est largement plus diffusable pour le coup quand même, assez simplement, contrairement à ce que tu sembles dire, Jean-Phi, quoi.
Et du coup, j'ai l'impression qu'on boucle et on revient sur la question de Quentin avec cette technique du pied dans la porte, Régis, ou du premier plus petit pas possible, où on se dit que c'est peut-être ça le début de l'amélioration des pratiques.
Ouais, soyons humbles. J'ai l'impression que c'est un peu une conclusion, tu as raison. Je vous propose qu'on file, pour le coup, vers la reco de la rédac.
La reco de la rédac.
Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver.
J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne.
Nous avons découvert une très grosse comète.
Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre.
Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise.
Qu'on patiente et qu'on avise.
On patiente.
Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise.
Alors, la reco de la rédac, les gars, on va faire j'ai envie de dire, la pluie et le beau temps au cinéma. On va vous parler d'un film qui s'appelle Don't Look Up. J'ai envie de dire, si vous n'en avez pas entendu parler les dernières semaines ou les derniers mois, c'est que vous vivez dans une grotte, hein, comme dit l'expression. Donc, un film qui est sorti sur Netflix, je crois la veille de Noël, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs. Il me semble que c'était une sortie un peu comme ça, du 24 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et si je prends la parole en premier, alors je vous laisserai peut-être, les garçons, si vous avez noté, vous, des éléments. Moi, je n'ai pas noté le réalisateur et ses éléments techniques du film. Mais en tout cas, je voulais prendre la parole en premier pour le déglinguer un petit peu, je vais le dire comme ça, clairement. C'est pour ça que ça s'appelle la reco de la rédac ou pas. Donc, en tout cas, on imagine que vous l'avez plus ou moins tous vus, et donc on a chacun pas mal de choses à dire, et moi en premier, la chose à dire, c'est que j'ai trouvé ça un petit peu trop outrancier, trop grossier, trop mascarade. Alors pour ceux qui l'auraient vraiment, vraiment pas vu, c'est une espèce de métaphore sur le changement climatique, et l'idée c'est qu'il y a une grosse météorite qui va s'écraser sur la Terre, et que tout le monde est au courant, et que les politiques le savent, et qu'il y a une espèce de jeu de dupes, où on n'a pas envie de voir les choses et la catastrophe qui arrive. Donc on voit bien le parallèle qui est intéressant, hein, pour le coup, là, je nie pas du tout ça, avec le changement climatique. Et je suis amateur, hein, pour le coup, quand même, de films, comment dire, satiriques. Mais là, j'ai trouvé, et c'est peut-être mon premier point négatif, que c'était trop outrancier, en tout cas, les personnages étaient trop outranciers, et en fait, derrière quelque chose qui se voulait cynique, il y avait ce côté, justement, too much, quoi, trop de cynisme, tue le cynisme. Donc c'est peut-être mon premier point, même si j'ai l'impression, hein, que c'est défendu comme, pour le coup, vous le direz peut-être, c'est peut-être vos avis, les gars, comme une des forces, comme une vraie force du film. Mais pour rester sur ce point-là, j'ai trouvé que même, et on va pas spoiler évidemment le film du tout, quoi. Moi, j'ai quand même été pris, hein, par la première fin du film qui prend aux tripes, qui est bien foutu malgré tout le cynisme du film. L'émotion est là quand même sur la fin du film. Et en même temps, il y a une espèce de seconde fin. Alors, je suis plus très sûr si c'est après le générique ou si c'est tout de suite après la première fin, qui encore une fois remet une couche en disant « Allez, grosse farce et grosse couche de tarte à la crème ». Donc, c'est un peu, pour moi, ça a gâché le plaisir du message, même si je suis pas tellement sûr que le réal ait voulu faire ce message. Mais en tout cas, toutes les critiques qu'on a entendues, tout ce qu'on a entendu les semaines et les mois suivants ont mis vraiment le focus sur ce message du changement climatique. Et vous, les gars, vos premiers avis sur ce film?
Écoute, en fait, en t'écoutant, je crois que je te rejoindrais. La seule chose, c'est que je crois que j'en suis ressorti en voulant quand même mettre d'abord en avant ses qualités, c'est-à-dire dans le sens où je crois que j'en suis plutôt d'abord ressorti en me disant que j'avais passé un bon moment, que j'avais trouvé le film bien. C'est-à-dire que je dirais que pour moi, c'est une réussite formelle. Moi, donc le réalisateur, c'est Adam McKay, c'est celui qui avait réalisé The Big Short, ou qui avait aussi réalisé Vice, sur la vice-présidence de Dick Cheney sous George Bush, les deux films que je ne peux que vous conseiller, qui sont pour moi absolument géniaux. Et donc moi, j'ai trouvé que le film était, comme les précédents, une réussite formelle. Et puis voilà, j'ai vu que vous l'avez mis aussi dans les notes de l'émission, les acteurs, etc. Donc moi, il y a beaucoup de choses. Mais comme toi, et je crois que je te rejoins, mais je le mets un peu en second, moi j'ai un problème avec le ton. Mais le problème que j'ai avec le ton, c'est qu'en fait, j'arrive pas à accueillir une satire sur ce sujet-là, parce que quelque part, le sujet me touche tellement dans une certaine mesure que moi, je n'arrive pas à rire de situations qui sont faites dans ce film comme des situations comiques, mais dont j'arrive pas à rire parce qu'en fait, je trouve ça tellement, enfin, ça me fait tellement flipper dans une certaine mesure, et je trouve ça tellement bien rendu, c'est-à-dire que, en effet, le très satirique. Donc voilà, moi, ça c'est pas que ça m'a gêné dans la forme, j'aurais pas tendance à dire que c'est mal fait, mais c'est juste que par contre, moi, ça m'a pas parlé sur la forme parce que je suis sorti de ce film avec un mal de bide, après avoir regardé Derrière nos écrans de fumée de Jeff Orlowski ou Dark Waters de Todd Haynes, qui sont tous des films, voilà, qui rendre compte un peu de comment des fois on fait un peu la technique de l'autruche et voilà.
C'est vrai qu'on a marqué plein de trucs dans les notes de l'émission, on va passer sur ce qui a été dit dans d'autres médias par ailleurs. Moi, juste pour faire le lien avec le bouquin dont on vous a parlé tout au long de l'émission, et notamment un article que moi j'ai trouvé plutôt pas mal dans le bouquin de Levan et Berger, où il y a cette expérimentation autour de, vous savez, alors je ne sais plus si c'est la place des émotions dans les cours ou avec cette exposition en Suisse, justement Jean-Phi. Et plutôt que, tu parlais de la métaphore, Régis, tu parlais de la métaphore entre le changement climatique et cet astéroïde qui va venir s'écraser sur la Terre. Moi, je vois aussi un questionnement autour de la place de la science dans la société d'aujourd'hui. Et voilà, moi, qui est quelque chose qui m'inquiète énormément, la dégradation du rapport à la science. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve de façon perlée dans le bouquin. Donc voilà, en sachant que pour moi, ce film, c'est un peu comme un test de Rorschach. D'ailleurs, c'est pas moi qui le disais, c'est Guy Medford, hein, de M. Le Mag, qui disait que voilà, c'est un test de Rorschach, ce sont des grosses taches d'encre asymétriques, ce film, et chacun peut y voir ce qu'il veut, y mettre ses peurs, ses joies, ses espoirs, même s'il n'y en a quand même pas beaucoup dans le film. Et voilà, bon, moi c'est un film que j'ai plutôt aimé, que je recommande pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas eu encore l'occasion de le voir, notamment pour vous faire une idée entre le « j'aime pas » ou « j'aime » que vous avez entendu aujourd'hui.
Eh bien, il nous reste quoi ? Il me reste à mettre une petite musique de fin pour dire que... On en profite pour remercier Anne-Cécile Calégeon, qui réalise toujours et encore les croquis-notes, les sketch-notes de Nipédu que vous voyez circuler sur les réseaux. N'hésitez pas à aller voir son compte Twitter, annecécilecalégeon.com, si je ne dis pas de bêtises. On remercie aussi Léni, création sonore, pour la création des jingles et du générique que vous entendez en ce moment même. Puis je crois qu'on se dit à dans un mois, les gars.
On se dit tout à fait ça.
À dans un mois, les garçons, et d'ici là, gardez la pêche.
Et crachez le noyau.
Et c'est parti pour ce test micro en direct de Gretz-Armainvilliers, Seine-et-Marne, 77 Represent. Je suis Fabien et je suis heureux de vous accompagner pour cette 138e émission de Nipédu. Aujourd'hui, on va vous parler frites au four, caramel mou et plantes carnivores. Régis, comment vas-tu ?